Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioVallée.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Bienvenue dans Biotope, une émission soutenue par BioVallée, retraçant les initiatives prises par les citoyens, associations, entreprises et institutions qui font en sorte que cette vallée de la Drôme soit la plus bio possible. Aujourd'hui, nous sommes au CFPPA avec Élise Levasseur, formatrice au CFPPA de Die, spécialisée dans les productions végétales. Nous allons nous intéresser au CFPPA et à ses formations. Élise Levasseur, bonjour.
Bonjour.
Pourriez-vous donc nous faire une petite présentation du CFPPA et de sa vocation, s'il vous plaît ?
Alors, le CFPPA de Die, c'est un centre de formation publique pour adultes. On est relié à l'EPL du Valentin. Alors, EPL, c'est établissement public local. On est regroupé sous la forme d'un EPL. Il y a le centre de formation à Bourg-les-Valence, à Nyons et à Die. À Die, on a cette spécificité, on est orienté en agroécologie, en tourisme rural. Voilà. Donc il y a aussi un centre de ressources, un espace public numérique et on est aussi relais de services publics.
Et à quel public vous adressez-vous ?
Alors ça dépend des formations. On s'adresse à tout type de public, des personnes qui veulent avoir des formations en agriculture de manière générale. Après, on a des formations dans le pastoralisme, en pluriactivité, dans l'agroalimentaire, dans l'environnement, dans l'espace rural. Donc c'est des formations assez diversifiées.
Donc grosso modo, c'est quand même des formations pour des gens qui voudraient s'installer ou qui s'intéressent à l'agriculture.
Après, on a une formation qu'on appelle le BPREA, donc brevet professionnel responsable exploitation agricole. Donc cette formation-là s'adresse à des personnes qui souhaiteraient s'installer en tant qu'agriculteur.
Donc c'est des formations plus ou moins longues, c'est ce que vous proposez ?
Alors, le BPREA, c'est une formation sur 10 mois. On est orienté en agriculture biologique. C'est une des spécificités de ce BPREA. Après, on a une formation qu'on appelle CS, un certificat de spécialisation en production végétale qui est orienté en agriculture biologique et en agroécologie. Nous avons aussi la formation pluriactivité agricole et saisonnalité. Donc il y a deux parcours, un parcours hiver qui concerne surtout la taille de vignes et la taille en arboriculture, et un parcours printemps qui concerne ce qu'on appelle les PAM, donc des plantes aromatiques et médicinales et en transformation des produits végétaux. Donc pour cette formation en pluriactivité, ça dure à peu près 3 mois. Voilà. Ensuite, il y a une autre formation pour être ouvrier qualifié en maraîchage biologique qui dure 3 mois et demi, qui est à peu près entre le mois de mars et le mois de juin. Et aussi une formation courte pour être ouvrier en viticulture. Voilà. Et dans le domaine de l'alpage, donc on a une formation pour être berger, vacher d'alpage. Donc c'est la seule formation en France qui propose une double compétence, c'est-à-dire qui permet de garder des brebis et des vaches. Cette formation dure 6 mois. Il y a 1 mois et demi de stage l'été en alpage et c'est itinérant sur plusieurs centres de formation.
N'auriez-vous pas au CFPPA aussi des formations encore plus courtes ?
Donc il y a des formations qui sont accessibles aux agriculteurs et aux particuliers, notamment une initiation à l'apiculture, des formations dans l'autoconstruction, donc ça peut être de séchoir solaire, de cuiseur solaire, voilà, et des formations aussi sur le travail de la vigne, la conduite d'engins agricoles et ce qu'on appelle HACCP, donc l'hygiène alimentaire, qui est une formation qui est en relation avec l'abattoir de Die.
Outre toutes ces petites formations, vous avez parlé du BPREA, je crois qu'on la demande à tout agriculteur qui veut s'installer pour obtenir la DGA.
DGA, dotation jeune agriculteur. Le BPREA, c'est la formation minimum pour pouvoir obtenir la DGA. Après, on peut tout à fait s'installer en tant qu'agriculteur sans avoir le BPREA, mais on ne peut pas solliciter les aides, les aides agricoles.
Et alors, rassurez-moi, il y a encore des prétendants à l'installation de nos jours ?
Oui. Oui, oui, heureusement, il y a encore des agriculteurs qui s'installent. Après, c'est très difficile de trouver du foncier, des terres. Disons que de plus en plus, les fermes ont des grandes surfaces, donc c'est des gros agriculteurs. Et les agriculteurs qui souhaitent s'installer sur des petites surfaces, ça devient difficile quoi, par rapport au foncier. Voilà. Après, l'installation est différente en fonction des départements.
Alors, je vous posais la question, c'est pour savoir si vous aviez toujours des postulants à vos formations, en fait. Donc il y a toujours un certain nombre de candidats pour suivre toutes les formations
oui.
que vous nous avez
citées. Oui, il y a toujours des candidats. Après, l'installation ne se fait pas immédiatement après la formation. Il y en a qui mettent plusieurs années à s'installer.
Je suppose que ce n'est pas le seul CFPPA de France et de Navarre. Vous avez parlé d'une certaine spécialisation dans certaines formations de type biologique et écologique. C'est exact.
Oui, donc à ADI, on s'est spécialisé en agroécologie. Alors déjà, parce que les professionnels du territoire étaient très impliqués dans l'agriculture biologique. Et dans le territoire, il y avait une orientation en agriculture biologique depuis à peu près 25 ans. Donc on a répondu à une demande croissante de formation en agriculture biologique. On a pris cette orientation en 2006 au CFPPA d'ADI. Et on a aussi cette obligation d'innover, de s'orienter vers des nouvelles pratiques alternatives et innovantes par rapport aux besoins de formation. Disons qu'on est un territoire quand même assez isolé. Donc si on ne propose pas des formations innovantes, c'est ça qui fait la différence. Il permet d'attirer du monde jusqu'à ADI.
Ces formations permettent donc de former le personnel requis pour travailler en agriculture bio, par exemple ? Plus particulièrement.
Oui, on a cette spécificité. Les gens qui font le BPREA ADI ont cette spécificité, cette orientation en agriculture biologique.
Et c'est donc un corpus pédagogique radicalement différent de ce qu'on pourrait proposer dans un BPREA classique.
Non, c'est pas radicalement différent. On reste sur les mêmes bases. Après, c'est sur l'approche de la formation, le contenu de la formation. Et c'est là où je vais aborder la thématique de l'agroécologie, c'est qu'on est non seulement orienté en agriculture biologique, mais la spécificité aussi du CFPPA de DI, c'est d'être orienté en agroécologie. Donc l'agroécologie, donc l'équipe pédagogique s'y est intéressée depuis longtemps. On essaye de rentrer dans les réseaux professionnels afin d'apprendre des expériences des agriculteurs et pour pouvoir aussi restituer ensuite aux apprenants, que ce soit les stagiaires ou les agriculteurs du territoire. Donc on va plus loin que la certification biologique. C'est aussi une demande des stagiaires, c'est d'aller plus loin que la certification bio.
Vous nous avez parlé à plusieurs reprises de l'agroécologie. Est-ce que vous pourriez nous préciser la signification de ce terme ?
Alors l'agroécologie, c'est difficile de le définir. Ça fait appel non seulement à un ensemble de pratiques agricoles, mais aussi à une certaine vision politique de la société, basée sur le respect, le partage, la durabilité des systèmes. Donc il existe trois aspects de l'agroécologie, les pratiques agricoles, l'aspect scientifique et l'aspect social. Alors, lorsqu'on parle de pratiques agricoles en agroécologie, l'objectif des pratiques agricoles, c'est réduire les intrants, autonomiser le plus possible les exploitations agricoles, entretenir la fertilité des sols, diversifier les systèmes agricoles. Il y a un aspect aussi d'économie des ressources en eau. Donc là, on est sur un ensemble de pratiques agricoles. Après, la définition qui est utilisée par les politiques ou par les universités, c'est l'agroécologie comme manière d'utiliser les fonctionnalités offertes par les écosystèmes pour concevoir des systèmes de production. Et après, bien sûr, il y a le mouvement social qui va au-delà des dimensions écologiques. On intègre là les dimensions économiques, sociales et politiques de la vie humaine, donc avec le respect de l'animal, de l'humain, partage des ressources écologiques. Voilà, donc il y a plusieurs définitions qui existent. Après, il n'y a pas vraiment une volonté non plus de fixer une définition pour l'agroécologie. Le risque, ça serait de se cloisonner dans une vision et de ne pas s'adapter à un contexte qui est en perpétuelle évolution. Donc en restant ouvert à d'autres définitions, on se laisse aussi la possibilité d'échanger sur des valeurs communes.
Tout ce dont vous venez de parler se retrouve dans les formations et en plus est directement utilisable par les gens qui passent par ces cursus.
Oui, alors Au CFPPA, on va mettre en place quelques jours de formation sur l'agroécologie, en particulier pour les formations longues. Après, c'est un peu au quotidien qu'on a pris cette orientation. C'est-à-dire que on va proposer aux stagiaires, aux apprenants d'avoir des parcours qui intègrent l'agriculture et l'élevage. Ça fait aussi partie de l'agroécologie, l'association de l'agriculture et de l'élevage, c'est la complémentarité des productions. On va aussi aborder l'aspect collectif, donc c'est un aspect social, ça fait partie de l'agroécologie. C'est aussi une tendance générale du milieu agricole. Il y a de plus en plus d'organisations collectives, que ça soit au niveau de la production, l'achat de matériel agricole, au niveau de la commercialisation. Donc on aborde ces aspects d'organisation collective. Et après, on propose des modules de spécialisation. Alors, par exemple, en naturopathie, en lutte biologique. Lutte biologique, ça va être la gestion des ravageurs en utilisant d'autres insectes, des auxiliaires. L'agroforesterie aussi, c'est un module de spécialisation qu'on propose. Voilà, donc, il y a un ensemble de pratiques alternatives et innovantes qui sont proposées en fait en module pour les apprenants.
C'est des modules autonomes en tant que tels ou y a-t-il un cursus ?
Donc à l'entrée de la formation, on propose aux apprenants un parcours individualisé, donc en fonction de leur expérience professionnelle et de leur projet, on va leur proposer certains modules de spécialisation.
Et dans quel type de formation vous leur proposez cette formation à la carte ?
Alors c'est essentiellement pour le BPREA et pour le CS, certificat de spécialisation en production végétale et animale en agriculture biologique. Donc il y a essentiellement deux formations où on propose ces modules-là.
Donc on peut imaginer que quelqu'un se fasse un BPRA avec une spécialisation agroécologique qui soit totalement différent d'un autre qui fasse ce même module alors. On pourrait imaginer que deux personnes qui suivraient le BPRA au CFPPA ne suivent pas la même formation puisqu'ils auraient pris des options différentes.
Ils suivent la même formation, il y a une base commune, après c'est des modules de spécialisation qui peuvent être différents.
Et les modules de spécialisation représentent quel pourcentage du cursus ?
Il y a 2-3 semaines de modules de spécialisation
sur 10 mois.
Ouais. Après c'est une approche globale aussi, c'est la formation, tout au long de la formation on va aborder des thématiques liées à l'agroécologie.
Alors arrêtez-moi si je ne vous ai pas compris, mais c'est tout le cursus, toutes vos formations que vous proposez à vos apprenants qui baigneraient dans cette dynamique de type agroécologique.
Oui, voilà. C'est pour ça que c'est difficile de définir l'agroécologie, parce qu'on ne parle pas justement seulement de pratiques agricoles, mais on va au-delà et on peut parler aussi d'une approche agroécologique dans les méthodes pédagogiques. On est en interrogation sur comment transmettre cette approche, ces savoirs agroécologiques. Par exemple, on va poser un problème et on va essayer de résoudre ensemble en juxtaposant les avis de chacun. Donc ça peut être, par exemple, une méthodologie. Après, il y en a plein d'autres, mais on s'interroge sur les méthodes pédagogiques qui pourraient permettre de transmettre ces savoirs agroécologiques.
Et puis dans les faits aussi, les pratiques agricoles issues de cette dynamique agroécologique sont empreintes de cette philosophie. Enfin, je veux dire, vous ne traitez pas les problèmes agricoles de la même manière. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure, je ne sais pas si c'était hors micro, de lutter contre les ravageants en introduisant, par exemple, des coccinelles ou je ne sais quoi.
Oui, le principe, c'est de ne pas prendre des solutions comme acquises. De manière générale, il y a beaucoup de pratiques innovantes et alternatives comme le semi-direct, le BRF, utiliser des auxiliaires, voilà. Il existe beaucoup de méthodes, mais en fait, on essaye de pousser les apprenants à réfléchir l'utilisation et l'adoption d'une méthode. C'est-à-dire, une méthode, elle peut être bien, mais par rapport à un contexte donné. Donc, l'objectif, c'est de réfléchir l'adoption d'une méthode par rapport à un contexte en perpétuelle évolution.
Du coup, en fait, c'est plutôt, de même que Montaigne le disait en son temps, former des têtes bien faites plutôt que des têtes bien pleines.
Voilà.
Vous apprenez aux gens à réfléchir plutôt qu'à utiliser telle méthode dans tel cas de figure.
Voilà, c'est vraiment adopter ses pratiques à son contexte, alors que ça soit pédoclimatique, socioculturel, professionnel, adapter à un contexte et le remettre aussi en question de manière perpétuelle. Voilà. Parce que c'est comme le vivant, en fait. Le vivant est en changement perpétuel. Donc les pratiques aussi doivent s'adapter à tous ces changements.
Avec l'agroécologie, il y a donc un véritable changement de mentalité, un changement de paradigme que vous accompagnez avec vos formations ?
Oui, il y a effectivement un changement de mentalité. Ce changement, il existe déjà entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. Alors, par exemple, quand il y a une attaque de ravageurs ou de maladies, en agriculture conventionnelle, on va raisonner par un problème, une solution. C'est-à-dire une maladie, un insecte ravageur, on va appliquer un produit. Alors qu'en agriculture biologique, on va essayer de comprendre d'où vient le problème. Si la plante est malade, c'est peut-être que le sol est lui aussi malade, et l'objectif devient alors d'améliorer la fertilité du sol pour que la plante soit plus vigoureuse et qu'elle puisse se défendre par elle-même. Finalement, en conventionnel, on cherche des recettes qui sécurisent. On a besoin de sécuriser un rendement, une date de récolte, alors qu'en agroécologie, on va essayer d'accompagner le vivant et pas à pas trouver une solution qui est adaptée au contexte de l'agriculteur. Voilà, donc c'est une solution qui doit être réadaptée en permanence.
Alors c'est un positionnement marketing en termes de proposition de formation qui est un peu audacieux parce que vous disiez précédemment que quand même il y avait relativement peu de projets en agroécologie et agroforesterie en cours. Donc vous êtes vraiment des précurseurs.
Alors, l'agroécologie, c'est depuis 2012 une priorité pour le gouvernement. Il y a un projet qui a été lancé par Stéphane Le Foll en 2012 qui s'appelle « Produire autrement ». Donc ça prouve que le gouvernement est aussi dans une démarche d'orienter l'agriculture vers l'agroécologie. Alors, ce projet agroécologique décrit par Stéphane Le Foll, il vise à produire autrement en repensant les systèmes de production. C'est un changement des pratiques agricoles, mais c'est aussi une autre façon de penser. Donc il y a quand même un appui du gouvernement et notre ministère de tutelle nous accompagne dans cette démarche. Et d'ailleurs, au niveau de la Biovallée, cette approche de l'agroécologie est importante parce que la Biovallée a cette volonté de développer des projets en agroécologie. Donc on est appuyé, que ce soit au niveau du ministère de tutelle ou au niveau de la Biovallée, il y a une volonté de développer l'agroécologie.
Et donc vos formations rencontrent un franc succès?
Oui, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent faire un BPREA orienté en agriculture biologique et au-delà en agroécologie. Donc il y a une demande dans ce sens.
Est-ce que les agriculteurs qui ont déjà l'habitude de leur méthode avec les problèmes qu'ils rencontrent au fur et à mesure, est-ce qu'ils peuvent changer de méthode? Est-ce qu'ils sont suffisamment flexibles pour adopter une autre façon de procéder?
Oui, et heureusement, les agriculteurs évoluent dans leur pratique agricole. Après, ça dépend d'un agriculteur à un autre. Après, ça peut être effectivement difficile pour un agriculteur qui a toujours pratiqué une agriculture conventionnelle d'évoluer vers de l'agriculture biologique ou voire en agroécologie. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Après, on est face aussi à des enjeux. Au niveau de la société, on doit diviser donc par 4 les émissions des gaz à effet de serre. On doit préserver l'environnement. À la fois, on a un objectif de nourrir la planète avec une alimentation saine. Donc les mentalités évoluent, que ce soit du côté des agriculteurs ou des consommateurs. Le changement se fait progressivement.
Est-ce que vous pensez que dans le milieu agricole, qui est quand même assez traditionnel, cette conscience du fait qu'il faut évoluer existe ?
Oui, je pense qu'elle existe. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui ont des problèmes de santé, par exemple, qui utilisent des produits phytosanitaires depuis des années et qui ont maintenant des problèmes de santé, des cancers. Donc maintenant, on voit les limites de cette agriculture conventionnelle. Donc il y a une prise de conscience, surtout par rapport à ça, aux problèmes de santé des agriculteurs. Certains ont pratiqué une agriculture conventionnelle pendant 20 ans, 30 ans, et maintenant ils passent à une agriculture biologique. Donc les mentalités évoluent.
Je ne me rappelle plus quels sont les pourcentages d'agriculteurs traditionnels par rapport au bio, mais c'est, je crois que c'est du 90-10, non ?
Ouais, bah le chemin est encore long, mais il faut y croire.
Et donc c'est bien que des CFPPA, qui sont des organismes publics officiels, on enseigne quand même les pratiques de demain, en fait.
Oui, ça commence par la formation. Autrefois, les personnes qui faisaient des formations en agriculture, on leur enseignait une agriculture assez conventionnelle. On ne parlait pas beaucoup du fonctionnement du sol, par exemple. C'est des choses qui reviennent de plus en plus dans les programmes de formation. Donc l'agriculture de demain, elle se construit dans un premier temps dans les formations en agriculture.
Et ça, c'est un message qui passe bien auprès de vos apprenants, parce que quand on a affaire à des agriculteurs traditionnels qui appliquent des méthodes traditionnelles, immémoriales, ils ont tendance à utiliser toujours les mêmes méthodes. C'est vraiment un changement radical de fonctionnement. Est-ce que ce message prend corps de nos jours ?
Puis en fait, là, c'est surtout des néo-ruraux.
Hein. Ah oui.
Donc on n'est pas dans changement des mentalités.
Ce que je voulais dire, c'est que cette méthode de fonctionnement, le problème se présente, on adopte telle méthode, un autre problème se présente, on adopte une autre méthode. Ce n'est pas vraiment ce qu'on a pu voir en agriculture depuis que l'agriculture
exacte. Je vois bien. Par rapport à une agriculture conventionnelle où on a un problème, un produit, une quantité, par exemple, pour simplifier. Là, on doit résoudre des problèmes, mais en prenant en compte un ensemble de paramètres. Donc, c'est plus compliqué quand même.
Peut-être pour nous aider à mieux comprendre, pourriez-vous nous donner un exemple ou deux ?
Oui. Alors, par exemple, quand il y a une attaque d'un ravageur, alors, quand on dit ravageur, un insecte, une maladie, en agriculture conventionnelle, on va souvent utiliser un produit qui est certifié. En agroécologie, on va essayer de voir d'où vient le problème. Par exemple, s'il y a une attaque de ravageur, c'est peut-être que la plante, elle est malade. Si elle est malade, c'est peut-être que le sol, lui aussi, est malade. Donc, on va peut-être améliorer la fertilité du sol pour que la plante soit plus vigoureuse, pour qu'elle soit plus apte à se défendre par elle-même. Voilà, donc c'est deux approches qui sont quand même bien différentes. S'il y a des ravageurs en grande quantité, c'est peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'auxiliaires, d'insectes pour les manger. Donc, on va favoriser toute une biodiversité pour permettre à ces auxiliaires d'être présents. Alors, un deuxième exemple, ça serait avec les pucerons, par exemple. En agriculture conventionnelle, on va utiliser un produit pour lutter contre les pucerons. En agriculture biologique, en agroécologie, on va favoriser un ensemble d'auxiliaires qui vont manger ou parasiter les pucerons. Donc, ça peut être la coccinelle, les chrysopes, les guêpes parasitoïdes. Donc, ils vont manger et parasiter les pucerons qui ne vont pas pouvoir produire de la fumagine. Et c'est cette fumagine qui va rendre la plante plus sensible à l'apparition de virus ou de maladies. Voilà, donc c'est deux pratiques très différentes et deux manières de penser assez différentes.
En fait, on pense de façon plus globale, des fois indirecte, pour arriver au même but.
Voilà, c'est ça.
Tout à l'heure, vous avez parlé d'agroforesterie. Est-ce que vous pourriez nous repréciser un petit peu de quoi s'agit-il, s'il vous plaît ?
Alors, l'agroforesterie, c'est l'association d'arbres et de cultures, cultures ou d'animaux sur une même parcelle. Donc, si c'est une association d'arbres avec des cultures, on va parler d'agri-sylviculture. Et si c'est l'association d'arbres avec des animaux, on va parler de sylvopastoralisme. Donc, dans le sylvopastoralisme, par exemple, il y a des systèmes qui sont assez connus en France, les prés-vergers, avec des arbres fruitiers et des pâturages en association. En agri-sylviculture, dans la Drôme provençale, on trouve par exemple association de chênes truffiers avec de la lavande et de la vigne.
Et alors, quel avantage on peut trouver à cette agroforesterie ? Pourquoi en parle-t-on ?
Alors, il y a différents avantages à l'agroforesterie. Il y a des avantages agronomiques. Dans un premier temps, ça améliore la fertilité des sols, la vie biologique du sol. Le système racinaire aussi des arbres en profondeur permet de capter les nitrates lessivés lors de la fertilisation des cultures. Donc ça permet de capter les flux de pollution générés par l'activité agricole. Les arbres aussi remontent l'eau qui est en profondeur, donc ça permet de restituer de l'eau aux cultures qui sont en association. Après, ça contribue aussi au maintien des réserves en azote dans le sol. Donc ça, c'est au niveau avantage agronomique. Après, il y a les avantages économiques. Associer des arbres avec d'autres productions, c'est une source de diversification des productions pour un agriculteur. Alors, production fruitière, production de BRF, de bois d'œufs, de cultures vivrières, d'élevage. Développement aussi de nouvelles filières dans le bois énergie, la méthanisation, les matériaux de construction. Voilà, donc économiquement, ça, c'est intéressant pour un agriculteur. Et au niveau écologique, ça favorise la biodiversité, c'est favorable à la faune, à la flore. Ça permet aussi l'introduction d'habitats pour les auxiliaires. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ça peut être une manière de défendre les cultures contre les ravageurs, d'introduire des habitats pour les auxiliaires. Il y a aussi cet aspect de bien-être animal, c'est-à-dire que si il y a des arbres, les animaux vont pouvoir se mettre à l'ombre pendant la journée. Donc il y a bien-être animal et aussi pour les cultures, il y a un effet d'ombrage pour les cultures. Et au niveau de l'érosion, il peut y avoir un impact positif.
Fixation des sols. Et c'est une pratique qui se développe de nos jours ?
C'est une pratique qui est déjà existante depuis des années. Donc il y a beaucoup de systèmes traditionnels dans beaucoup de pays du monde. L'agroforesterie existe déjà depuis longtemps. Après, certains agriculteurs essayent de développer ces systèmes actuellement en France, mais il y a encore très peu de projets pour l'instant. Ça se développe.
Oui, parce qu'il fut une époque, je pense au remembrement, c'était un peu le contraire. On supprimait les haies, je pense à la Beauce aussi, des immenses champs à perte de vue de céréales. Donc c'est peut-être un retour en arrière par rapport à ce qui s'est fait pendant une certaine époque d'agriculture ultra-intensive. C'est peut-être plus adapté à nos climats de moyenne montagne où il y a de l'agriculture avec des petites exploitations aussi peut-être.
Oui, on est toujours sur des grandes surfaces au niveau des exploitations agricoles en France, mais c'est vrai que ça se développe de plus en plus, l'agroforesterie. Il y a quand même de nombreux avantages économiques, agronomiques, donc les mentalités commencent à changer, d'autant plus qu'il y a des études de l'INRA qui incitent les agriculteurs à développer l'agroforesterie. Donc il y a une étude de l'INRA qui s'est basée en fait sur une étude d'un système agroforestier blé, association blé-noyer, donc sur 100 hectares, et ils ont abouti en fait à la conclusion que c'était au niveau économique, que c'était équivalent à une parcelle de 136 hectares où arbres et cultures auraient été séparés. Donc il y a un gain de 36% sur le plan agronomique.
Si d'aventure un agriculteur déjà installé ou en voie d'installation voulait se diriger vers des pratiques agroécologiques ou d'agroforesterie, vers qui pourrait-il se tourner ?
Alors, si c'est dans la région, ils peuvent nous contacter, on pourra les orienter. Sinon, pendant notre formation, on fait intervenir Agrouf, qui est une société coopérative qui est spécialisée dans le développement des pratiques en agroforesterie. Donc, ces agriculteurs-là peuvent contacter Agrouf. Ils pourront avoir un conseil sur la conception d'un projet en agroforesterie.
Capsule. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. Élise Levasseur, en parlant d'agroforesterie, le CFPPA a développé un certain nombre de formations spécifiques concernant ce domaine en particulier. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Oui, donc il y a une formation en agroforesterie qui dure à peu près une semaine, qui est mise en place au CFPPA tous les ans. Elle a lieu en général au mois de mars. Donc elle concerne non seulement des apprenants au CFPPA, les personnes qui suivent la formation soit BPREA, soit le certificat de spécialisation en production végétale. Et après, des agriculteurs ou des particuliers peuvent aussi s'inscrire à la formation en agroforesterie.
Rappelez-nous, s'il vous plaît, quelques concepts fondamentaux concernant l'agroforesterie.
Alors, l'agroforesterie, c'est l'association d'arbres avec des cultures ou des animaux sur une même parcelle. Il existe différents systèmes traditionnels. On peut intégrer soit des plantes aromatiques, des grandes cultures, du maraîchage. Voilà. Donc on parle avec des animaux, on parle de sylvopastoralisme, et avec des cultures, on parle d'agri-sylviculture.
Et c'est une pratique qui se développe de nos jours.
Il y a certains agriculteurs qui commencent à mettre en place ces systèmes. Après, ils ont toujours existé. Ils étaient présents dans beaucoup de pays, que ce soit en France, en Europe ou même dans le monde entier. Il y a des systèmes agroforestiers qui existent déjà depuis longtemps.
Et pour en venir à ces formations, vous la proposez depuis combien de temps ?
Ça fait 4 ans qu'on propose cette formation-là. Et en général, elle a beaucoup de succès. Beaucoup d'apprenants choisissent cette spécialisation-là. Et d'ailleurs, il y a des apprenants qui viennent d'un petit peu partout de la France pour suivre ce module.
Pourquoi les gens viendraient-ils de toute la France ?
Il y a très peu de centres de formation de type CFPPA qui proposent ce genre de module en agroforesterie. Voilà, c'est encore une pratique qui est à ses débuts et très peu de centres de formation se sont orientés là-dessus.
Et quand vous avez dit beaucoup de gens la suivent, ça veut dire combien ?
À peu près, il y a une quinzaine de personnes à chaque fois, une quinzaine, vingtaine de personnes.
Vous avez dit que c'était à peu près au mois de mars qu'il y avait une formation. Est-ce que vous pourriez nous confier les coordonnées du centre si des gens étaient intéressés pour s'inscrire ?
Donc il faut contacter le CFPPA de Die, qui est avenue de la Clairette. Le numéro de téléphone, c'est le 04 75 22 04 19.
Eh bien, Élise Levasseur, je vous remercie d'avoir participé à cette émission et de nous avoir transmis toutes ces informations. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Biotope.
une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.